Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast de France Télévisions, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on parle d'un sujet terriblement d'actualité, les intoxications alimentaires, voire les graves intoxications alimentaires. Je dis que c'est d'actualité car bien sûr on en a beaucoup parlé ces derniers temps, aussi bien avec les cas de pizza, de chocolat ou encore de fromage avec ces bactéries. Et donc aujourd'hui on va entendre un témoignage de Marine, maman d'Augustine, gravement concernée par ce sujet, vous allez l'entendre. Et puis nous serons juste après avec une néphrologue pédiatre à l'hôpital Trousseau, docteur Cyrielle Parmentier. C'est parti.
SHU, ce sont donc trois lettres pour dire syndrome hémolytique et urémique. Voilà, c'est une maladie qui touche environ 160 enfants par an et qui est causée par la fameuse bactérie E. coli dont on parle beaucoup en ce moment dans la presse et pour cause. Depuis le début de l'année 2022, on observe une recrudescence des cas, 75 en tout, dont deux décès. En cause, certaines pizzas industrielles. Marine, le cauchemar donc du SHU, vous l'avez vécu l'été dernier avec Augustine, qui a 3 ans, votre fille. Elle a été violemment touchée par ce syndrome. Qu'est-ce qui s'est passé le matin du vendredi 13 août 2021 ?
Eh bien, Augustine s'est réveillée vers 6 heures du matin parce qu'elle venait de vomir. Donc, je la réconforte comme je peux. Je lui propose naturellement un petit biberon de lait pour reprendre un petit peu de force. Et en fait, le biberon ne passe pas. Elle revomit tout dans les 2 minutes. Et à ce moment-là, ça me fait écho à la veille, où, pareil, elle avait vomi tout son biberon et c'était plainte de maux de ventre.
Et vous dites quoi alors à ce moment-là ?
À ce moment-là, on pense à une gastro.
Oui, bien sûr.
Voilà, on se dit, c'est une gastro, donc on lui donne des petites quantités d'eau régulières, tout doucement. Je fais même cuire du riz pour lui donner l'eau de cuisson. Et en fait, rien ne passe. C'est de pire en pire. Elle revomit tout en grande quantité. Jusqu'à ce que vraiment elle vomisse jaune. Et là, avec mon conjoint, on a senti que quelque chose n'était pas normal et on a eu le réflexe de descendre aux urgences.
Donc vous êtes allée aux urgences de l'hôpital de Thonon-les-Bains. Là, on lui a fait faire pas mal d'examens. Qu'est-ce que ça révèle, ces examens, sur le moment ?
Tout conclut vers une gastro, avec une grosse déshydratation qui causait les vomissements. Donc, l'équipe médicale nous dit qu'il garde Augustine la nuit, du vendredi au samedi, pour la perfuser, pour la réhydrater par voie intraveineuse, puisque ça passait pas bien quand elle buvait d'elle-même. Et en montant dans sa chambre vers milieu fin d'après-midi, elle est prise d'une violente diarrhée. Donc, à ce moment-là, l'équipe médicale en profite pour faire un prélèvement des selles pour analyse.
Voilà, et c'est, en fait, ils lui ont fait aussi une analyse d'urine.
Oui.
Et c'est ça qui leur ont fait dire que c'était pas une gastro.
Oui, ils ont constaté du sang dans les urines. Mmh. Donc, c'est vers minuit vraiment qu'on a eu la conclusion. La pédiatre est venue me chercher dans la chambre accompagnée de l'infirmière. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, j'étais seule parce qu'avec mon conjoint, on se reliait pour passer la nuit. Donc je suis convoquée dans cette petite pièce à côté de la chambre où Augustine dormait. Et là, donc, on m'annonce que ce n'est pas une gastro, mais c'est un SHU, donc un syndrome hémolytique et urémique. Donc c'est nouveau pour moi, et je ne connaissais pas, donc elle m'explique et elle m'annonce aussi qu'Augustine doit aller dans un service de réanimation pédiatrique pour être surveillée. Donc c'est un peu plus de 2h30 de route de chez nous.
Et en plus, quand on vous dit réanimation, forcément...
Ah oui, on s'imagine le pire. Moi, j'avais l'image de la réanimation qui était le coma, les respirateurs, enfin voilà, vraiment le vital.
Donc, elle est transférée à Lyon en hélicoptère, c'est bien ça. Mmh. Vous êtes dans quel état ? C'était la panique, j'imagine.
Oui, on est complètement paniqué. On se dit que sa vie est en jeu, il faut gagner du temps. On laisse partir notre enfant, notre bébé en hélicoptère toute seule, puisqu'on ne pouvait pas l'accompagner, il n'y avait pas assez de place. Nous, avec mon conjoint, on est partis en voiture. Donc, elle mettait 40 minutes pour atteindre l'hôpital. Et nous, on avait un peu plus de 2 heures. Donc, je pense qu'on a mis un petit peu moins parce qu'on était très stressés. et on l'a rejoint au plus vite.
Alors vous êtes arrivée donc à l'hôpital Femmes Mères Enfants de Lyon. Là vous avez été accueillie par le néphrologue de garde. Un néphrologue, c'est donc le médecin qui s'occupe des reins, c'est sa spécialité. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là?
Il nous réexplique la maladie, ce que nous avait déjà dit la pédiatre de Thonon, mais il commence aussi à avancer un petit peu dans les conséquences possibles. Donc il nous explique que les globules rouges sont détruits, que les caillots bouchent les tout petits vaisseaux du corps, principalement du rein, mais il nous amène progressivement à nous dire que ça peut toucher aussi probablement d'autres organes.
Alors, est-ce qu'il sait à ce moment-là, d'où provient la bactérie? Est-ce que vous y pensez déjà, vous?
Alors, on a essayé de lister tout ce qu'Augustine avait pu consommer la semaine avant les premiers symptômes.
Je vous interromps, mais il vous a dit que c'était important de savoir comment est-ce qu'elle l'avait attrapé pour pouvoir déterminer laquelle c'était ou pas du tout?
Non.
C'était juste
pas
pour
forcément.
Vous, quoi,
c'était, ouais. Oui, voilà, juste pour identifier. D'accord. Vraiment si ça provenait d'un aliment sensible. Et c'est vrai qu'en fait, la semaine avant, on était en vacances. Donc, autant dire qu'on faisait beaucoup d'activités, de balades. On mangeait à différents endroits, donc au restaurant, snacking. On a visité une chèvrerie. Et donc, en conclusion, on a identifié trois sources possibles. La consommation d'un steak haché, la consommation d'un fromage de chèvre au lait cru.
Parce qu'un steak haché qui n'était pas très cuit.
Probablement. On s'en souvenait pas sur le moment, on ne se souvenait pas vraiment. On n'avait pas forcément fait attention.
Bien sûr.
Et aussi, la troisième source possible, les chèvres en elles-mêmes qu'elle aurait pu caresser.
Ah, les chèvres en elles-mêmes?
Oui. Oui,
c'est
oui.
Ça, elle les caresse et après, elle met la main dans sa bouche?
Oui, voilà. Ouais, si.
Alors, elle est restée 12 jours, la petite Augustine, en réanimation pédiatrique à Lyon. Elle a dû être dialysée. On lui a aussi posé une voie centrale pour faciliter toutes les prises de sang, parce que Dieu sait qu'elle en a eu. Elle a reçu 3 transfusions. Alors, une nuit, vous êtes là et puis vous entendez des drôles de bruits.
Oui.
Qui vous ont vraiment paniqué.
Oui, complètement. C'était la pire nuit, la troisième nuit en réanimation. Il était 2h du matin. C'est moi qui dormais dans sa chambre. Et là, j'entends des petits gémissements, comme quand elle fait un cauchemar à la maison. Mais là, le bruit était beaucoup plus régulier. Ça m'a réveillée. Et quand je me suis approchée pour la regarder, là, j'ai vu en fait une bave blanche et mousseuse qui sortait de sa bouche. Elle avait les yeux fermés, hein, elle dormait. Et là, je me suis mise à trembler. J'étais dans la panique totale. Je n'arrivais même plus à trouver la sonnette d'alarme pour avertir les médecins. J'ai couru dans le couloir et là, l'équipe est arrivée à ce moment-là. Ils ont réussi à calmer les convulsions avec un antiépileptique. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'elle convulsait et que la toxine que libérait la bactérie avait atteint le cerveau.
Donc, ça a été l'occasion, cette crise d'épilepsie, d'un nouveau débrief avec le néphrologue. Évidemment, là, en tant que maman, vous pensez aux séquelles neurologiques, j'imagine?
Bien sûr, oui.
Ça, on vous comprend.
On était très, très inquiets. Donc, les médecins nous ont expliqué les séquelles probables, savoir des problèmes moteurs ou cérébraux. Mais pour l'instant, ils ne pouvaient pas se prononcer. On allait voir...
Comment est-ce qu'elle allait réagir?
Voilà, comment elle allait réagir.
Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance?
Non, on ne pouvait pas le savoir.
Elle a dormi toute la journée le lendemain. C'est le surlendemain qu'elle s'est réveillée. Comment s'est passé ce réveil?
Alors, quand elle s'est réveillée, elle nous a demandé où est Malo. Malo, c'est notre chat. Ils s'adorent vraiment tous les deux. Donc, ouais, je crois qu'on a eu vraiment, avec mon conjoint, ces moments où on a eu vraiment des larmes de joie parce qu'on s'est dit, elle parle, elle a des souvenirs, elle évoque notre chat. Enfin, pour nous, c'était magnifique. Après, on avait appris à gérer aussi un peu nos émotions. Donc, l'inquiétude a vite repris le dessus parce qu'on s'est dit, est-ce qu'elle va continuer à parler? Qu'est-ce qui va en être de la marche, etc. On commençait déjà un petit peu à se poser des questions, mais on était déjà... c'était un gros soulagement.
Oui, j'imagine. Donc, elle a reçu des soins très, très lourds, Augustine. Et en plus de ça, elle avait un protocole ultra strict à suivre. Notamment, elle ne pouvait pas boire.
Oui.
Pourquoi ça?
Alors, elle ne pouvait boire que 20 centilitres d'eau par jour, donc c'est très peu. Mais cette restriction hydrique était indispensable puisque, comme ses reins ne fonctionnaient pas, qu'elle était sous dialyse, elle faisait beaucoup d'œdèmes, elle retenait beaucoup l'eau, donc il ne fallait pas surcharger son corps. Mm-hmm. Elle avait déjà la perfusion qui l'hydratait, donc il fallait lui donner vraiment des petites quantités d'eau tant qu'elle n'éliminait pas encore...
Pour éviter la bouche trop sèche, voilà. En fait, c'était ça. Quoi,
alors ouais. C'était très compliqué, hein. Ça a été le moment le moins supportable pour Augustine parce que la sensation de soif, c'était très difficile, ça l'empêchait de dormir, elle faisait des micro-siestes de 5 minutes et quand elle se réveillait, elle nous disait « j'ai soif ». Donc ouais, c'était très dur pour elle.
Alors Augustine, elle a quitté la réanimation au bout de 12 jours, elle est restée ensuite 16 jours en néphrologie, elle recommençait à s'alimenter, elle allait mieux, elle faisait moins d'œdèmes, etc. Et puis après plus de dialyse, 2 jours avant de partir, enfin de sortir de l'hôpital, elle est rentrée à la maison après quasiment un mois d'hospitalisation. Évidemment, on imagine bien qu'elle avait un suivi médical très stricte. Mais comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle va après tout ça?
Eh bien, on a retrouvé notre pétillante Augustine, joyeuse, souriante, pleine de vie. Oui, elle va bien. Alors après, elle a encore un gros suivi néphrologique et neurologique. Hein, donc, c'est
ça va durer combien de temps, ça, en fait?
On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait
parce
pas.
Qu'en fait, la bactérie ne part pas, c'est
non.
ça?
Elle ne part pas, en fait, c'est ce qu'on nous a expliqué. En fait, là, on n'a pas de médicament de miracle qui va...
Il n'y a pas d'antibiotique pour détruire cette bactérie.
Voilà, qui va détruire la bactérie, la toxine. En fait, elle fait sa vie dans le corps, de ce qu'on nous a expliqué. Elle fait sa vie, elle détruit ce qu'elle veut sur son passage. Mmh. Et on peut juste traiter les symptômes. Donc ça a été assez déroutant pour nous.
Bah, oui.
Vraiment, d'avoir aucune maîtrise, d'être passif face à cette maladie.
Mais un jour, est-ce qu'elle va s'endormir? On vous dit quoi? On
qu'elle
sait pas.
Va s'éliminer naturellement.
Elle va s'éliminer
avec la dialyse au fur et à mesure, mais ils n'ont vraiment aucune notion du temps. On vivait heure par heure, au jour le jour. C'était assez déroutant.
Bon, et vous, pas trop traumatisée quand même par tout ça? Parce que quelle histoire!
Oui, c'est vrai que ça a été très choquant, mais maintenant, on est quand même rassurés. Même si, par contraste, on a vraiment développé une inquiétude face à l'alimentation. On se pose toujours la question, est-ce que cet aliment est adapté à Augustine? Est-ce qu'il est assez cuit? On traque maintenant même les dates de péremption. Enfin, on est vraiment en redouble de vigilance sur tout.
Bonjour docteur Cyrielle Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. On va faire le point donc avec vous sur ce fameux syndrome hémolytique urémique. On rappelle donc que la France connaît une épidémie de SHU depuis le mois de février 2022, que ces intoxications alimentaires sont dues à d'autres bactéries que l'Escherichia, on dit, coli,
ouais,
on dit pas, je me dis Escherichia à l'italienne, mais non, c'est Escherichia coli. Donc d'autres bactéries comme la salmonellose, la listériose, etc., qui se sont aussi invités dans l'actualité. Youhou! Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on ne comprend pas très bien cette histoire de bactéries qui ne part pas, comment elle apparaît et quels sont les dégâts qu'elle fait?
Alors, comme vous l'avez dit, donc, le syndrome hémolytique et urémique, il est en lien avec ce fameux Escherichia coli. Mm-hmm. Ce n'est pas déjà tous les Escherichia coli. On en entend souvent parler pour des infections urinaires, pour d'autres choses. Là, c'est vraiment...
Il y en a qui sont plus bénins que d'autres.
Exactement. D'accord. Et encore heureux.
Oui, oui.
Et donc, finalement, cet Escherichia coli, il est spécifique parce qu'il est porteur d'une toxine. Et c'est cette fameuse toxine qui va aller attaquer les tout petits vaisseaux du corps, donc principalement digestifs, et puis après d'autres organes, comme a pu le raconter la maman d'Augustine. Et donc, c'est cette toxine qui va être particulièrement virulente, notamment pour les petits-enfants. Et on sait que...
Pour les adultes, c'est plus bénin?
Oui, tout à fait. Les adultes sont moins à risque d'être fortement atteints par cette toxine. D'accord. Ils pourraient avoir des symptômes beaucoup plus bénins que les enfants, notamment les petits-enfants.
D'accord.
Et on sait que cette fameuse toxine est principalement portée par les bovins, par les ruminants.
D'accord.
Et donc, le risque, c'est le contact des vaches, la viande ou le lait dérivé
donc
des
les
vaches.
Les chèvres, c'est une explication
Les chèvres, la ferme.
Crédible.
Voilà, ouais, tout
d'accord.
à fait.
Ouais. Alors, Lou vous demande quels sont les premiers symptômes et à partir de quand ils apparaissent.
Alors,
on peut penser à une gastro, disait Marine.
Et tout à fait, tout à fait. Les premiers symptômes, ils peuvent être banaux. Ça peut ressembler à une gastro-entérite classique. Mm-hmm. Souvent, ça peut apparaître dans les 2-3 jours, mais on sait que ça peut être un peu retardé. Et notamment dans nos enquêtes, on remonte parfois jusqu'à 10 ou 15 jours après le début des symptômes pour essayer de retrouver l'aliment qui va être en cause. Les premiers symptômes, c'est classiquement une gastro-entérite. Donc, une diarrhée, des vomissements. Et puis, on peut voir apparaître parfois du sang dans les selles, ce qu'on appelle une diarrhée glérosanglante. Ça, c'est vrai que c'est un de nos points un petit peu d'appel où on va se dire, oh là, c'est pas une gastro classique. Mmh. Et puis, ça va après, les symptômes vont dépendre de là où la toxine va aller attaquer donc, certains organes. Et on a principalement des enfants qui peuvent, par exemple, être très pâles. D'accord. Parce que cette toxine va casser les globules rouges et provoquer ce qu'on appelle une anémie. D'accord. Voilà, c'est un de nos autres signes d'appel, nous, en tant que pédiatre. Mmh. Et puis, si la toxine attaque les reins, eh ben, on va avoir des symptômes donc, urinaires, voire des enfants qui ne font plus pipi. D'accord. Et ainsi de suite, en fonction de là où la toxine va aller se loger.
Mmh. Alors, on a reçu une question, vous voyez, en vidéo pour vous, d'Aurélie. C'est terrible, elle a perdu sa fille à la suite d'un SHU. Regardez sa question.
Bonjour, je suis la maman de la petite Eva décédée du coup en janvier 2022. Ma question est la suivante. Ma fille a eu un SHU avec le cerveau touché avant les organes. A priori, c'est rare et j'aurais voulu savoir comment c'était possible. Merci à vous.
Ah là là. Ouais, c'est une histoire bien triste. J'ai pas d'explication franche pour dire pourquoi est-ce que le cerveau a été touché avant. Ce que l'on sait, c'est que parfois, les symptômes digestifs, qui sont classiquement les premiers symptômes, peuvent passer un petit peu inaperçus. On peut avoir des symptômes complètement banaux, qui ne nous ont pas alertés, et malheureusement, après avoir une atteinte neurologique au premier plan, comme l'explique cette maman, qui peut être une atteinte, malheureusement, encore une fois, ça, c'est exceptionnel, mais malheureusement, qui peut être extrêmement catastrophique.
Donc du coup, est-ce qu'on peut rappeler concrètement, parce que là, c'est vrai que les aliments, vous avez dit le lait cru.
Oui, tout à fait.
La viande hachée, je
crois. La viande hachée pas bien cuite.
D'accord.
Donc vraiment, c'est là-dessus qu'il faut qu'en termes de prévention, on puisse vraiment axer notre message. Donc c'est surtout pour les petits-enfants, on a tendance à dire les moins de 5 ans.
Voilà,
moins de 5 ans, classiquement. D'accord. C'est les recommandations qu'on donne, même si l'actualité nous a montré que le SHU peut toucher des enfants un petit peu plus grands. Mais en tout cas, les recommandations...
C'est toujours bien cuit, la viande, c'est toujours bien cuit, je veux dire.
Exactement.
On joue pas avec du saignant.
En fait, voilà. C'est cuit à cœur.
On fait pas goûter de tartare, on fait pas goûter de
Pas, ouais. pas de steak tartare, mais même pas de viande rosée. C'est cuit à cœur. Votre D'accord. steak haché, il doit être cuit à cœur.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment un message qui est important. Les autres points de prévention, c'est aussi finalement donc le fromage au lait cru. Mm-hmm. Ça, c'est interdit avant 5 ans. Voilà, ça fait partie de nos messages de prévention.
Et la même bactérie pour un enfant de 10 ans c'est comme un adulte, ça les rend malades, mais...
On n'est pas tous égaux vis-à-vis des virus. Donc malheureusement, on peut avoir des enfants de 10 ans, mais même parfois des situations exceptionnelles avec des adultes. Mais il n'empêche que c'est les enfants les plus petits qui sont les plus fragiles et qu'il faut protéger.
Donc on fait attention, pas de fromage au lait cru,
voilà.
des fromages pasteurisés ou des fromages qui sont bien bien affinés, comme des vieux comtés, des trucs comme ça, ça va.
Ça va. On a tendance à dire que la cuisson pour des fromages au lait
Elle
cru...
Elle se rassure.
Vieux comté, côté 18 mois, 24 mois.
Vous inquiétez pas, chez moi, il n'y a que du bon comté.
Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas envie de manger que de la vache qui rit, mais il n'empêche qu'il faut vraiment rester, il faut rester vigilant.
Il s'agissait de pizza passée au four. Comment se fait-il que la bactérie n'ait pas été tuée par la cuisson?
Eh ben, c'est une vraie bonne question. On se la pose aussi. Okay. Il y a plusieurs hypothèses. Une des premières hypothèses, c'est peut-être une cuisson pas assez importante ou bien avec un four pas assez chaud. Je rappelle que pour avoir 70 degrés à cœur, il faut vraiment une température de cuisson beaucoup plus importante, 160-180. Une autre hypothèse, ça serait de se dire qu'il y aurait une manipulation de la pâte crue avant d'être mise au four. Et c'est cette manipulation qui pourrait avoir provoqué l'intoxication. Mais moi, je n'ai pas le fin mot de l'histoire actuelle.
C'est-à-dire une manipulation de la pâte crue.
Vous, quand vous la sortez de votre frigo.
Et donc, c'est vous qui êtes porteur de la bactérie sur les
non,
mains.
Non, ça serait sur la pâte. Soit de la farine sur
après,
la pâte.
Et après, on se met la main dans la bougie.
Voilà, exactement.
Avant la cuisson.
Avant la cuisson.
Est-ce que le micro-ondes tue la bactérie?
Alors, tout est une question de chaleur, en fait. Donc, si vous faites une chaleur assez importante et assez longue, oui, vous pouvez tuer cette fameuse bactérie. Mais encore une fois, il faut un temps long et une cuisson, vraiment, il faut que vous vérifiez que vos aliments sont bien cuits à cœur.
Et typiquement,
bah voilà.
Attention, ouais. Question très importante. Mais vraiment, c'est une question cruciale, docteur, la raclette.
Alors, c'est vrai, c'est important, je suis d'accord.
Ouais, oui.
Non, on peut manger de la raclette, voilà, je vous rassure, mais les enfants peuvent manger de la raclette, il faut que ça soit cuit longuement. Donc vous faites attention, normalement c'est considéré à 70 degrés. Donc normalement les consignes de les fours que vous mettez ou en tout cas vos petits poêlons là, ils sont normalement assez cuits.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser cuire un peu le fromage. Comme on aime Marie,
voilà.
Ça va.
Mais c'est toute la manipulation autour qui peut poser souci. Encore une fois, c'est vous qui achetez votre fromage cru. Faites attention, lavez-vous bien les mains surtout quand oui, vous faites ça. La cuisine, quand vous manipulez votre fromage cru. Et ça, c'est des petites choses auxquelles on pense peut-être
aussi
pas assez.
Un truc hier, parce que je me suis essuyé les mains chez quelqu'un dans un chiffon qui n'était pas propre, ça m'a traumatisée. Mais donc, en fait, les chiffons, c'est pas des nids à bactéries aussi, comme ça? Parce que, genre, on découpe un blanc de poulet et on va directement se s'essuyer les mains sur le chiffon. Ouais. La personne qui vient après, ça se trouve, elle s'essuie, elle se met la main dans la bouche.
Oui, alors, les bactéries ne restent pas longtemps sur des surfaces comme cela. Mais d'accord. En effet, comme vous dites bien, si vous le faites tout de suite ou si le chiffon est très sale, bien entendu, c'est pas les meilleurs...
Chez qui, hier, juste
C'est ça.
Ne se dit pas chez moi, en tout cas, je tiens à le dire.
Un voisin.
Il va être content s'il nous regarde sur France.
Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, déjà, je ne pense pas qu'il regarde à 10h13 parce qu'il bosse et on est sur France.tv, donc il aurait fallu qu'il fasse la démarche. Okay. Mais s'il l'a faite, bah, je t'aimais bien quand même, hein, malgré ton chiffon. Allez, ciao, ciao. Nos chemins se séparent ici.
Darlène, il y a une question pour vous qui concerne les mères qui allaitent. Si la maman est atteinte, c'est bénin pour elle, mais est-ce que la bactérie peut être transmise par le lait?
Alors, c'est une bonne question. Habituellement, on a tendance à dire que non, que le lait maternel ne transmet pas. Mais encore une fois, on a eu des cas très exceptionnels de mamans qui ne s'étaient pas bien lavé les mains et qui, en mettant leur bébé au sein, a pu passer la bactérie. Voilà. Donc, ça reste encore heureux, ça reste exceptionnel. Mais l'hygiène des mains, voilà, c'est important si vous mangez pendant que vous allaitez votre petit.
Du coup,
parfait.
Au tout début, d'ailleurs, on nous disait de nous nettoyer les mamelons avant de donner une tétée.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est fastidieux. Hein,
mais c'est à vous, à force de frotter vos seins sur la raclette.
Mais c'est ça.
ça devient n'importe quoi. Pardon, docteur. Autant d'années d'études.
Marie, elle adore. Alors, elle leur fait des câlins aux meules.
Mais alors, toute la période du Covid a fait du bien sur ces questions, sur l'hygiène. Je veux dire, ça a rappelé à tout le monde l'importance de se laver les mains plein de fois par jour.
C'est vrai. On a pu faire passer des messages de prévention qui étaient des messages simples. Et je pense que l'hygiène des mains, notamment chez les tout petits, maintenant, c'est acquis.
Oui.
Les enfants se lavent bien les mains, des fois même mieux que nous. En tout cas, c'est des gestes qui sont acquis. Il n'empêche que ça vaut le coup de les répéter et ça vaut le coup de faire repasser ces messages-là parce que, par exemple, pour le SHU, c'est des maladies qui sont très peu connues du grand public. Donc, c'est quand même important qu'on puisse en rediscuter.
Bah oui, d'où l'intérêt de faire cette émission.
Pourquoi y a-t-il davantage de cas aujourd'hui, vous demande Élie. Alors, c'est peut-être aussi le sentiment qu'il y a de plus en plus de cas parce qu'on en parle beaucoup.
Je pense qu'il y a peut-être... Alors là, actuellement, il y a une épidémie en lien avec ces fameuses pizzas butoni, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas? Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Peut-être qu'on change un peu nos habitudes alimentaires depuis quelques années, on a envie de faire goûter des choses un petit peu plus extravagantes à nos enfants, peut-être. Peut-être aussi que l'agroalimentaire ayant pris plus de place, bah, il faut être vigilant, on l'a vu, là, la veille sanitaire, c'est vraiment important. Et d'un autre côté, moi j'ai envie de voir les choses de façon un peu plus positive, on est plus capable de les dépister aussi. On a fait énormément de progrès sur le dépistage de ces maladies-là, sur ces toxines, et nos centres de référence en microbiologie sont très performants et donc on arrive à poser des diagnostics qui sont des diagnostics plus précis, donc peut-être plus de cas déclarés, à savoir est-ce qu'il y a plus de cas de façon générale, ça c'est...
Les histoires de Kinder Bueno, etc., c'est la même bactérie?
Non, pas du tout.
D'accord.
Donc c'est les salmonelles là, pour les Kinder. Donc,
qui sont un peu moins méchantes que celles dont on a parlé tout à l'heure.
Heureusement, pour le moment, on n'a pas eu de décès, alors que dans l'épidémie du SHU, malheureusement, il y a eu 2 décès d'enfants. Donc là, pour les salmonelles, il y a eu 20 d'enfants hospitalisés, ça c'est moins sévère, mais c'est quand même des diarrhées extrêmement importantes, des diarrhées avec de la fièvre. Donc chez le tout petit, un risque de déshydratation important.
Oui. Et puis une petite psychose, non? Vous avez dû avoir plein de coups de fil.
Alors oui,
tous les parents dont les enfants avaient mal au ventre, en gros, on pensait que c'était ça, quoi.
Un peu. C'est vrai que tous les enfants mangent des Kinder, venir aux urgences parce que l'enfant a la diarrhée. Mmh. Et on a eu une épidémie de gastro et c'était normal. Donc faut arriver nous en tant que médecin à rassurer et en même temps à faire la distinction.
Oui, c'est ça.
Quel cas va être sévère, voilà, bah ça c'est
très dur, parce que les symptômes que vous décrivez tout à l'heure, bon, une gastro...
Oui, mais toute gastro sévère avec déshydratation, de toute façon, on va garder l'enfant, on va le réhydrater et on va faire des explorations un peu plus poussées.
Alors Victor voudrait qu'on fasse un point sur les produits périmés, notamment quand le yaourt n'a pas changé de goût, quel est réellement le risque?
C'est vrai qu'il y a des dates limites.
Des yaourts périmés, quoi.
C'est vrai?
Mais on a tellement entendu qu'on pouvait les manger jusqu'à 20 jours après la date.
Alors voilà, du coup. Et puis il y a le gaspillage alimentaire, puis de l'autre côté, il y a les principes de précaution.
Alors,
bon, il y a une date limite de consommation, on le sait tous. Cette date limite-là, c'est une date qui est donnée, qui n'est pas une date butoir. Moi, j'ai envie de passer un message quand même vis-à-vis des, notamment, encore une fois, des petits-enfants. Mm-hmm. Bon, le principe de précaution prime. C'est vrai que vous ouvrez votre yaourt, vous allez voir si le goût n'a pas changé. Mangez-le, mais faites-y vraiment attention. Ne le donnez pas aux petits. Mm-hmm. Et encore plus sur les produits lactés. Oui. Tous les produits lactés, vraiment, ne dépassez pas la date de consommation, notamment pour les petits-enfants.
C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a produits lactés et compotes, c'est ça, vous faites la différence?
Oui, ou... tout d'accord. à fait, bien sûr. Okay. Ouais.
Et puis les crèmes...
voilà, les crèmes dessert et tout ça, là-dessus, ouais. Il faut être vigilant.
C'est pour ça que c'est les parents qui mangent des trucs périmés, en fait. Hein. Parce qu'on ne les donne pas à nos enfants.
Ça, c'est pour les moins de 5 ans.
Oui, principalement.
D'accord. Ouais. Donc, 8 ans, on peut leur donner.
On va passer aux consultations privées, là.
Voilà, c'est ça.
Quel risque pour la femme enceinte qui attraperait la bactérie, vous demande Laurie?
Alors, ça dépend des bactéries. Là, sur l'Escherichia coli, de toute façon, les femmes enceintes, on sait, elles sont plus à risque. Pareil, une déshydratation, ça peut ne pas être bon pour le fœtus. Il faut être vigilant. Il y a une fameuse bactérie qu'on connaît très bien chez la femme enceinte, qui est la listeria. Ouais. Mmh. Alors là, pour le coup, ça peut être dramatique, parce que malheureusement, il peut y avoir un passage au fœtus. Et cette fameuse bactérie, elle a une prédisposition pour les méninges. Et donc, ça peut entraîner des méningites, et notamment des méningites chez le fœtus. D'accord. Et donc, là, pour le coup, ça peut être vraiment extrêmement... Mmh. Donc, les messages de prévention de lait cru, pour la femme enceinte, ils sont aussi extrêmement importants.
Ouais. Ça nous a bien, bien gâché notre grossesse, ça, quand même. Quels sont les risques, Clémence me demande, quels sont les risques à long terme du SHU? Y a-t-il des conséquences sur l'organisme?
Eh ben, vous avez entendu l'histoire d'Augustine, vous avez entendu le témoignage de cette maman. Oui, il peut y avoir des risques, il peut y avoir des risques de séquelles.
C'est-à-dire
qu'une fois que la bactérie et que cette fameuse toxine a été éliminée par le corps, il n'en reste pas moins qu'elle a pu faire des dégâts dans la période aiguë. Oui. Et donc, notamment, on a quelques enfants, encore une fois, heureusement, ce n'est pas la majorité, qui gardent des séquelles, que ce soit neurologiques ou rénales, avec des insuffisances rénales. Alors, heureusement, les enfants ont une bonne capacité de récupération rénale et la plupart vont passer, même ceux qui passent un temps en dialyse, ensuite ils vont récupérer.
Combien de temps en moyenne à être éliminée? Il n'y a pas de règle?
Non, exactement. Il n'y a pas de règle. Et comme l'a bien dit la maman d'Augustine, on n'a pas de médicaments spécifiques pour aller attaquer cette fameuse toxine. Et si vous mettez des antibiotiques, vous allez tuer la bactérie qui va libérer toutes ces toxines et vous allez presque faire plus de mal que de bien. Ouais, donc il n'y a pas de règle. Il faut s'adapter d'un enfant à l'autre. Et nous, on gère les conséquences, mais on ne gère malheureusement pas la cause. C'est l'organisme qui va éliminer la bactérie.
Mais comment on sait qu'elle a été éliminée, alors?
Il n'y a plus de symptômes. Et notamment, les globules rouges se régénèrent. Vous n'avez plus cette fameuse anémie, plus de besoin de transfusion. Et là, on sait qu'un des caps les plus importants est passé.
Est-ce qu'on peut parler du poisson cru, les sushis, etc.? Là aussi, les enfants, on évite?
Alors, on évite. C'est le principe de précaution. Sur les maladies dont on vient de parler, c'est plutôt la viande, mais bien entendu les poissons crus. Alors, on a moins d'épidémies comme ça en lien avec les sushis, mais voilà, il faut s'assurer que de la provenance.
C'est quoi? Il y a des parasites en fait dans les.
Il peut y avoir des parasites. Il peut de toute façon y avoir des bactéries. Voilà, il faut rester.
Le cru, c'est compliqué, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup, docteur Cyrielle Parmentier. Merci infiniment à Marine Roche d'être venu nous voir jusqu'à la maison des maternelles pour parler de ce sujet pas marrant, il faut bien le reconnaître. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain 9h25, 9h27 sur France 2 avec Agathe Le Caron, Yasmine Ouglis et toute la bande. On sera tous là au rendez-vous. Ciao tout le monde.